Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Politiquement Votre, le rendez-vous politique de CFM Radio avec nous aujourd'hui en studio, Michel Veil, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne. Bonjour Michel Veil.
Bonjour messieurs.
Bienvenue à vous sur CFM Radio.
C'est avec grand plaisir que je suis ici pour m'expliquer, dire un peu les résultats de mon budget d'avant-hier.
Oui, vous avez fait voter effectivement votre budget lundi en séance départementale. Avant d'aborder ce chapitre sur le budget 2024, vos projets, tout ce que vous allez mettre en place pour cette année à venir et peut-être aussi celle à venir aussi dans un plus long terme, un mot tout d'abord sur l'agriculture. Pendant plusieurs jours, la colère s'est exprimée dans le monde agricole et les agriculteurs ont témoigné d'un profond mal-être, malaise. Quel a été votre sentiment, Michel Veil ?
De toute façon, depuis longtemps, je partage complètement le mal-être des agriculteurs, vu que dès mon arrivée, j'ai mis en place tout un tas de choses pour leur venir en aide. Et chaque fois qu'ils ont eu un souci, il y en a eu plusieurs, de la sécheresse, des orages, des problèmes avec les animaux, un manque de fourrage. Chaque fois, j'ai répondu présent, financièrement, avec mon équipe. Tout le monde a suivi, la majorité n'a pas trouvé à redire, même certaines de l'opposition, d'ailleurs, ça s'est assez bien passé. Nous avons soutenu le milieu agricole. Moi, ça se passe très très bien avec le milieu agricole, d'ailleurs. Je suis allé les rencontrer sur les barrages, sur la Vain, entre autres. Après, les conseillers départementaux, chacun, on s'est partagé un peu. Pour moi, je ne pouvais pas faire le tour du département, j'avais en plus beaucoup de travail, vu qu'on était en préparation du budget, mais je suis allé avec eux sur les barrages. J'y suis revenu avec les élus. Ils m'ont même invité à manger pour qu'on puisse parler plus tranquillement à 6 ou 7.
Justement, monsieur le président, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ces agriculteurs ? Parce qu'on a pu noter des revendications très disparates, multifactorielles, qui vont sur plusieurs champs. Selon qu'on est dans le Tarn-et-Garonne, au sud du Tarn-et-Garonne ou au nord du Tarn-et-Garonne, qu'on soit viticulteur ou céréalier, qu'on soit éleveur ou autre, il y avait beaucoup de revendications, mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit ?
Mais, de toute façon, les revendications, elles sont un peu logiques, parce que n'importe quoi que l'on prenne. Alors, pour les éleveurs, par exemple, aujourd'hui, c'est quand même... En fait, quelque part, je les aime tous, mais quelque part, ce que je plaindrais le plus, c'est les éleveurs. Parce que là, ça rigole pas. Le soir, il faut avoir ce qu'il faut à leur donner à manger. Il n'est pas question de partir en vacances, il faut s'occuper des bêtes. Et quand vous voyez qu'ils produisent du lait et qu'ils vendent ça à 22 ou 23 centimes, c'est pas possible, c'est pas viable à faire. Aujourd'hui, les bêtes, ça mange énormément. Il y a du mal à avoir du fourrage, certaines doivent en acheter. Donc, c'est un métier qui n'est pas facile. Pour les autres qui font les fruits, bon, les arboriculteurs, ils ont la quantité, mais aujourd'hui, ils produisent beaucoup. On leur a fait planter, ils ont certainement été conseillés à une époque par des conseillers agricoles pour planter beaucoup de pommes, beaucoup de produits qui soi-disant allaient bien se vendre, et puis aujourd'hui, eh bien, les produits les ont sur les bras. Cette année, ils ont eu une récolte de prunes magnifique, des prunes qui ne se sont pas vendues. Donc, ils ont ramassé les prunes, ils payent des ramassages, ils les entretiennent, ils font les traitements, ils font tout ce qu'il y a à faire, ils payent les tailles pour finalement ne pas vendre le fruit. Et chacun dans leur domaine, ont tous des problèmes particuliers. Je me mets à leur place, ça ne devient pas facile. Alors, dans les autres pays, on a le droit, par exemple, avant de semer du colza, de passer le champ au désherbage. Nous, chez nous, c'est interdit. Ils ne peuvent plus désherber. Bon, quelque part, on roule pas sur la même longueur d'onde, là. Il y a un gros souci pour eux. Et dans toutes les catégories, on va pas tout reprendre, toutes les catégories d'agriculteurs, mais que ce soit les petits ou les gros, ils ont tous les mêmes soucis. Certains étaient partis vers le bio, ça paraissait intelligent, on les a un peu poussés. Ils ont dit, pourquoi pas, on va essayer, on va faire du bio. Puis aujourd'hui, le bio, ça se vend plus. Parce qu'effectivement, ça demande plus de travail. Il y a eu aussi un peu le pouvoir d'achat qui est passé par là, dont les gens regardent un peu le meilleur marché, et ils ne peuvent pas vendre leurs produits. Donc il va falloir qu'ils reviennent au traditionnel, alors qu'ils avaient fait des dépenses importantes et des sacrifices pour passer au bio.
Ouais. Est-ce que vous diriez, par exemple, pour synthétiser, que ce sont les normes et la question du pouvoir d'achat qui étaient au cœur de cette mobilisation ?
Moi, je pense déjà que c'est surtout les normes. J'ai l'impression qu'en France, on veut laver plus blanc que blanc. peut-être que pourquoi en Espagne ils ont le droit de désherber, pourquoi ils ont le droit d'utiliser certains produits pour sulfater. Nous, pour les cerises, on n'a plus le droit de sulfater les cerisiers, dont les cerises elles se font bouffer par des moucherons. Ailleurs, et les cerises, ils peuvent les sulfater, ils n'ont pas de moucherons. Donc quelque part, il faudrait mettre tout le monde sur la même longueur d'onde et peut-être qu'on aurait moins de problèmes. Mais je crois quand même que ce qu'ils ont demandé, pour beaucoup, ils l'ont obtenu. Et ce que j'ai remarqué hier soir, et je n'ai pas pu l'écouter comme il faut, ni le lire ce matin parce que je n'avais pas le temps, je crois que dans ce qu'ils ont demandé, ils ont déjà commencé à avoir pas mal de résultats positifs pour eux. Donc espérons que ça aille bien et que ça puisse continuer, qu'ils se remettent un peu au même niveau que les autres. Après, il y aura toujours l'histoire de la main-d'œuvre. C'est certain que quand on a des agriculteurs en Espagne ou au Portugal ou en Pologne qui ramassent des fruits pour un prix dérisoire de l'heure, nous, on n'aura jamais ça ici.
La présidente, un mot sur l'Europe, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé mardi qu'elle allait proposer le retrait d'un projet de loi qui visait à réduire de moitié l'usage des pesticides dans l'Union européenne. Est-ce que finalement, Michel Veil, on n'arrive pas pour répondre à la demande des agriculteurs, à un changement de paradigme, ce qu'on avait autant que faire se peut, réussi à faire, finalement, on va casser cette démarche de transition et de développement durable.
Mais je pense, parce qu'ils s'aperçoivent que ça vient de là. Alors, il y a certainement un peu de travail des écologistes qui, eux, ont fait leur boulot, ont voulu essayer d'amener quelque chose de mieux. Mais peut-être qu'il faudrait aussi réfléchir à trouver des produits qui ne soient pas trop dangereux, parce qu'il ne faut pas non plus pourrir la nature, il ne faut pas polluer nos nappes, parce que je vois sur certaines nappes, quand même, quand on parle de l'eau potable, j'en ai été président pendant des années, on a quand même des infiltrations de glyphosate qui font que ça nous amène des pesticides dans l'eau que nous vivons et que on mettra des années à s'en débarrasser. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais pour arriver à ménager la chèvre et le chou, ça va être compliqué. Il faut peut-être arriver à trouver des produits qui soient efficaces, on a quand même des chercheurs, et que tout le monde utilise les mêmes en Europe, comme ça, on sera tous sur le même pied d'égalité.
Vous avez déclaré, M. Veil, comprendre les revendications, et on l'a entendu, les revendications des agriculteurs, mais pas, vous ne comprenez pas les dégradations qui ont eu lieu, notamment sur les voiries départementales et sur les ouvrages, ce qu'on appelle les ouvrages. Est-ce que ça a été entendu? Et d'ailleurs, est-ce que vous allez intenter une action en réparation?
Donc, bien sûr, on ne peut pas, c'est pas acceptable. Je veux dire, quelque part où on a tous des budgets qui sont un peu limités, il n'est pas acceptable de voir des gens, sur un coup de colère, dégrader notre matériel. Il leur appartient à eux comme à moi. Moi, j'ai rien à moi là-dedans. Le département, il est à tout le monde. Et il est aux départementaux. Donc, quand on voit qu'on fout le feu sur le pont de la Magistère et qu'on fait brûler les câbles, sachant que dessous, sous le tablier, il y avait un tuyau de gaz en haute pression, et que si ce tuyau de gaz avait pété, on foutait la moitié de la Magistère par terre, on ne peut pas dire que c'est une bonne chose. Sur le pont de Quercy-Gascogne, la traversée entre Castel et Moissac, le pont neuf, on fout un feu, on pouvait le mettre 10 mètres avant. La première fois, quand j'y ai assisté, j'y suis allé le lendemain matin voir les dégâts, il avait fait 10 mètres avant. 10 mètres avant, bon, eh bien, ça abîme le goudron, on refait le goudron, ça a un coût, mais là, ils l'ont fait en plein sur le joint. Le joint, c'est 95 000 euros. Alors, moi, je leur ai expliqué. Je comprends bien que ce que je comprends surtout...
Est-ce que vous allez demander des...
Oui, j'ai porté plainte de toute façon. C'est une obligation. Oui. Parce que si je ne porte pas plainte, et si j'ai par exemple le pont de la Magistère à refaire, j'aurai aucune aide d'assurance, j'aurai rien. Alors que pour pouvoir avoir une aide, quelque petite peu que ce soit, j'ai jamais rien eu. Hein. D'abord, personne n'a jamais été jugé, et tout a été classé comme ça depuis que je suis arrivé. Il n'y a jamais eu personne qui a pris une amende ou qui a eu quelque chose à payer. Pour le moment, c'est le conseil départemental qui a toujours tout payé. Mais quelque part, si on ne porte pas plainte, les assurances, c'est pas la peine, ils viendront pas. Donc, on est obligé de porter plainte, ça fait une liste, ça fait, il y a un recueil qui dit, bon, eh bien, il y a eu un problème à tel endroit, voilà. C'est surtout ça qui est important. Après, je sais très bien que les meneurs, les responsables agricoles ne peuvent pas maîtriser tout le monde. Les gens sont très énervés dans le nombre de gens qui sont avec un tracteur et une remorque pleine de fumier derrière. Ils ne peuvent pas les maîtriser à tous. Ça part dans tous les sens. Et ils vont pas, un responsable que n'importe quel syndicat que ce soit, il n'arrive pas à maîtriser ces gens. Quand on voit le travail qu'ils ont fait à Agen devant la préfecture, on voit bien qu'il n'y a plus personne qui commande là. Là, les meneurs, ils sont dépassés et ils démolissent tout, quoi. Hein.
Ouais. Un autre mot, un des derniers mots sur l'agriculture, pardon. Pour le président de la Chambre d'agriculture, la plus grande urgence, c'est de stocker de l'eau. Ici, à ce micro, à votre place, le préfet de Tarn-et-Garonne a aussi déclaré qu'il était favorable à la création de nouvelles retenues, d'accélérer ce processus, et pourtant, rien ne se passe. Est-ce que... Enfin, rien ne se passe.
Si.
En tout cas...
On ne peut pas dire que rien ne se passe. Il va se passer des choses.
Ah, il va
maintenant,
se passer.
On ne peut pas faire n'importe quoi non plus, là. Moi, ça ne me gêne pas de voir des lacs, mais il y a quand même des réglementations. Il ne faut pas que tout le monde se mette à prendre une pelle mécanique et à creuser son trou autour de sa ferme. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que s'il y avait un dysfonctionnement, ça pourrait devenir dangereux, après. Il faut savoir que la collinaire, même... Quand il commence à faire 50 ou 40 ou 100 000 mètres cubes, ça fait de l'eau. Et que si jamais tout ça s'est pas fait dans de bonnes conditions, si c'est pas fait réglementairement, et qu'un jour ce barrage vienne à péter, par exemple, hein, que ce soit pas contrôlé comme il faut, eh bien, c'est 100 000 mètres cubes d'eau qui partiraient dans la vallée, par exemple, ça pourrait créer des soucis partout. Donc, les choses, il faut les faire. Je pense qu'on est dans bonne voie. Nous avons créé, nous autres, avec Tarn-et-Garonne Aménagement, les conditions pour, et je pense qu'on va y arriver. En plus, on sera aidé par la facilité qui a été annoncée, mais il faut faire des retenues d'eau, et je pense que ça va aller, monsieur le préfet. En ce moment, nous avons un préfet qui est quand même, qui comprend bien les choses, qui a tout compris. Nous avons un préfet de région qui aussi est prêt à faire des sacrifices. La dernière fois, que notre président de Tarn-et-Garonne Aménagement l'a rencontré, il lui a dit « mais je ne peux pas faire quoi que ce soit, pour le moment je n'ai aucune demande en possession ». Donc maintenant des demandes, il va lui en arriver, et ces demandes-là, il va savoir les traiter. Je pense que tout le monde n'est pas fermé à ce qu'il se fasse des retenues.
Donc ça va se faire très rapidement.
Oui, très rapidement, oui, ça commence déjà. On a annoncé, nous autres, les curages vont attaquer déjà, on va attaquer les curages immédiatement, parce que ça... Les autorisations avaient déjà été demandées, donc c'est de remettre les lacs existants à un volume. Ça, c'est un préalable. Déjà, on gagnera du volume d'eau. Et ensuite, je crois qu'on a une dizaine de dossiers, même peut-être un peu plus, qui sont en attente, pour lesquels on va accélérer les demandes et pour lesquels ça va pouvoir se réaliser.
Dernier mot, si vous permettez, sur l'agriculture, quoique, c'est concernant l'abattoir, ça y est, c'est terminé, l'abattoir.
L'abattoir, c'est terminé.
Vous avez manifesté.
Moi, j'y avais cru, vous savez que je n'avais pas à m'en occuper de cet abattoir, ça ne me regardait pas.
Ouais, c'est pas
nous n'avons pas la compétence économique, donc l'abattoir, je n'avais pas à y foutre mon nez, mais il me semblait qu'en tant que président du département, j'aurais pu essayer à l'abattoir de faire quelque chose. Je l'ai fait, j'ai prévu une ligne de 500 000 euros, puis c'était pas fictif, elle y était la ligne, elle avait été votée par tout le monde, elle était là la ligne. Malheureusement, il y a eu un concours de circonstances qui ont fait qu'il a manqué des choses et que l'abattoir il a fermé.
C'est la faute à qui ?
C'est la faute, je sais pas, c'est la faute un peu à tout le monde.
Enfin, à tout le monde. Allez, on va passer au second chapitre avec Michel Veil, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne. Vous avez donc, on l'a dit en ouverture, fait voter le budget 2024 pour le département du Tarn-et-Garonne, un budget qui s'élève à 378,6 millions d'euros, avec un gros paquet pour le social et la solidarité de 122 millions d'euros, suivent ensuite les routes, l'éducation, etc. Quelle est votre marge de manœuvre ? Quelles sont vos priorités, Michel Veil ?
Mes priorités, c'est un peu tout, il y en aura un peu pour tout le monde, mais aujourd'hui, le social occupe une grosse part de notre budget. On est beaucoup sur des choses qui nous sont imposées, vu que le social est une de nos compétences obligatoires, donc il y a des choses pour lesquelles on n'a pas le choix, et on nous dit, messieurs, il va falloir faire ça, il faut le financer. Donc je trouve que c'est un peu gros, le social est énorme, et que nous n'encaissons plus d'impôts, donc nous n'avons aucune solution à nous. Nous, par exemple, quand on encaissait le foncier, on pouvait dire, cette année, il y a un peu plus de dépenses, comme ça a été le cas cette année, avec les augmentations sur le personnel et tout un tas de choses qui sont arrivées, sur les maisons de retraite qui s'en sortent mal à cause de l'électricité, la nourriture et tout ça, on aurait pu mettre 1 ou 2% de plus et puis équilibrer un budget comme ça, mais là, ce n'est pas le cas. Nous n'avons plus de recettes. Il a fallu faire des choix.
Et vous dites, dans votre discours d'ouverture, que vous êtes inquiet pour le futur.
Oui. Oui, je le suis, je suis très inquiet pour le futur, parce que je vois qu'on n'arrête pas de nous sortir des nouvelles choses, des nouvelles normes, des nouvelles réglementations, surtout sur le social. Je vois des maisons de retraite, parce que je suis allé en visiter quelques-unes, qui sont en difficulté. Qui va les redresser? Qui va les aider? Le dernier coup, c'est nous qui l'avons fait. On a fait beaucoup, on a donné un 13e mois, on a divisé 800 000 euros par le nombre de lits du département qu'on a redonné à chaque maison de retraite, mais tout ça, on ne pourra pas le refaire. On le fait une fois pour pensant que ça allait pouvoir partir, mais rien n'y a fait. Il y a toujours un déficit dans les maisons de retraite, parce que tout augmente, ça continue d'augmenter, et les personnes qui y sont dedans, elles n'ont pas des retraites qui augmentent pour pouvoir prendre en charge. On ne peut pas augmenter. Parce que si on augmente les gens qui sont dans la maison de retraite, c'est-à-dire les résidents, c'est encore nous qui allons le récupérer par l'aide sociale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ne pourront plus payer, c'est quand même nous qui allons payer. Donc, où il faut que l'État, l'ARS, vu que c'est son poste, fasse un très gros effort, et nous, peut-être, on risque d'y arriver. Mais je me fais énormément de soucis. Il n'y a pas que ça aussi. Oui. Il y a des postes comme les enfants, où aujourd'hui, nous avons 1034 gosses dans le département qui sont dans des familles d'accueil pour lesquelles nous ne trouvons plus assez de familles d'accueil pour les garder. Et ça, c'est quelque chose qui nous coûte, vous l'avez sur vos... on l'a dans les registres, ça nous coûte 40 ou 42 millions. C'est pas une paille, quand même.
Alors, votre inquiétude, celle que vous manifestez, celle que vous avez dite auprès de vos collègues conseillers départementaux, est-ce que ça remet en question le fil rouge de votre mandature, notamment le plan de relance que vous avez confié à Jean-Michel Baillet? Est-ce que ça remet en question tout ça?
Non, parce que ça, ce sont des choses qui sont programmées. Je pense aussi qu'on arrive vers des élections municipales où les choses vont se calmer. Là, on a amené, dans ce mandat, on a amené quelque chose, une bouffée d'oxygène pour les collectivités qui n'était jamais arrivé. Aujourd'hui, ils peuvent aller jusqu'à 200 000 euros d'aide sans avoir besoin à faire recours à l'emprunt, les collectivités. On donne 5% de plus dès qu'ils font un contrat, ce qui nous permet à nous d'étaler la dépense. Donc, j'ai très bien compris, et je me doute bien, j'ai été maire pendant longtemps avant, que dans une collectivité, on fait un gros coup pendant le mandat, on fait un gros investissement, et après on se calme. Alors, les bricoles, ça passera toujours, enfin les bricoles, ou les petits travaux dans les petites communes, ça passera toujours, il n'y a pas de souci. Non, le fil rouge, on essaiera de ne pas le toucher, s'il y a peut-être des choses qu'il faudra revoir, et bien on reverra. Il y a des choses qu'on peut toucher, c'est peut-être la voirie, en faire un petit peu moins, on verra ça, mais pour le moment, on n'en est pas là. Rien ne sera touché pour le moment, mais il y a des économies à faire ailleurs, on est en train de les chercher. Il y a des économies à faire sur, même dans notre système de fonctionnement qui fonctionne très bien.
C'est-à-dire les agents aussi
Les agents, c'est une obligation, c'est pas là qu'on fera des économies.
Oui, mais vous pourriez arrêter le recrutement, stopper les remplacements.
On peut peut-être calmer, faire bouger les gens à l'intérieur du conseil départemental, ce que beaucoup souhaitent, donc peut-être, et puis je crois quand même qu'on est arrivé à un moment, nos prédécesseurs, avant de partir, nous avaient quand même laissé un lot bien important de personnel, donc peut-être qu'il n'est pas utilisé à 100%, et tout ça, pour un président, au milieu de 1500 personnes, c'est pas tout à fait évident de le voir tout de suite, mais là, ça va faire 3 ans, je commence à y voir un peu plus clair, je commence à me manifester un petit peu plus, et j'essaie de remettre les choses en ordre, mais je devrais y arriver.
Vous allez y arriver. Dans 18 départements, le gouvernement a lancé une expérimentation qui conditionne le RSA à 15 heures d'activité. Cette mesure, le Premier ministre a annoncé que cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2025 pour tous les départements. Est-ce que vous y préparez? Est-ce que finalement c'est une bonne chose que RSA soit couplé à des heures d'activité?
À 15 heures de travail. Alors oui. Figurez-vous oui. Que quand c'est sorti cette affaire-là, j'étais candidat, j'avais mis le département du Tarn-et-Garonne pour être candidat à l'expérimentation. Je n'ai pas été retenu. Ça a été l'Aveyron. Madame la préfète de l'époque m'a dit, je le regrette, monsieur Veil, mais vous n'êtes pas retenu. Parce que c'est quelque chose qui ne m'aurait pas déplu, ça. Mmh. Parce que quand je vais visiter les entreprises à Grand Sud Logistique là-bas, et que j'ose plus y aller d'ailleurs maintenant, parce qu'à la fin, il me paie toujours une petite boisson fraîche, et il me dit: alors, monsieur le président, c'est quand, c'est lundi matin que vous nous envoyez 50 personnes, parce qu'on est noyés, on se pique le personnel d'un à l'autre, là, entre les entreprises, une à côté de l'autre, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire, est-ce que vous ne pouvez pas nous envoyer du monde? Alors, moi, mon idée m'était venue, je m'ai dit, bon, eh bien, écoute, ça tombe bien, cette affaire-là, on enverra assez de monde pour les aider, pour faire travailler les gens 15 heures, pour essayer de les remettre au travail. Et je crois, pour moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. C'est anormal de payer les gens sans rien faire, alors qu'il y a plein d'entreprises qui cherchent du monde, entre autres la mienne, depuis mon ex-entreprise. On a été obligé de foutre une banderole de 10 mètres de long pour dire « recherchons collaborateurs et chauffeurs ». Et il n'y en a pas beaucoup qui se présentent.
Généralisé à partir du 1er janvier 2025, est-ce que vous pourriez faire une demande au gouvernement pour anticiper cette...
Maintenant, je n'anticiperai pas, parce que ça y est, c'est mis en place. Ils savent qui va le faire. Mon collègue de l'Aveyron l'a choisi, il n'y a pas de problème.
La loi NOTRe ne vous permet plus de subventionner directement les entreprises, mais vous avez la possibilité de mettre en place des outils qui favorisent le développement économique de notre territoire, à dominante rurale et agricole, et on en a parlé. Est-ce que vous avez des actions à mettre en œuvre sur ce plan-là ?
On le fait déjà pour l'agriculture, surtout par l'environnement, vu que l'environnement, c'est une de nos compétences. Donc, sur l'environnement, sur l'eau, sur des trucs comme ça, qui touchent à l'environnement, indirectement, on aide. La Chambre d'agriculture est aidée par ce système-là, par le système environnemental, parce que directement, on ne peut plus apporter, à mon grand regret d'ailleurs, j'aurais aimé être président et avoir les coups des franches, parce que quand je vois des petites entreprises s'installer et qui auraient besoin de 10 ou 15 ou 20 000 euros pour leur mettre un peu d'oxygène, ça m'aurait bien plu de pouvoir les leur donner, parce que je sais ce que c'est, je l'ai été, et ça m'aurait bien aidé à moi à une époque aussi. Là, c'est pas le cas, j'ai pas la possibilité, on trouve toujours un petit truc, mais en fait, c'est très limité quand même.
Et sur la transition, cette transition de développement durable, c'est une thématique que vous avez volontairement écartée de votre discours d'ouverture du Conseil départemental de lundi dernier, de l'Assemblée, parce qu'elle fera l'objet, selon vous, d'un autre temps, d'une autre séquence, c'est-à-dire que vous réservez...
Je veux la travailler davantage.
C'est-à-dire...
C'est quelque chose de nouveau pour nous, d'abord, où j'ai embauché une personne très compétente là-dessus, qui était autrefois travaillé avec moi à la ville de Montauban, après est parti sur ailleurs, et que j'ai repris là, dont cette personne est très compétente, mais je n'ai pas senti les dossiers prêts à être présentés au moment où on m'a présenté les dossiers.
Il n'y a pas de maturité encore.
Il n'y avait pas assez de maturité, surtout dans une période où il y a des choses qui pouvaient se contredire avec l'agriculture ou un truc comme ça, donc j'ai préféré la mettre en stand-by pour le moment, mais elle ne va pas l'être au niveau du travail. On va s'y mettre encore davantage, on va davantage l'étudier, et quand
et
je la présenterai à la prochaine,
à peu près,
oui.
C'est-à-dire, à peu près, quand c'est que vous annoncerez, c'est-à-dire que vous allez organiser peut-être une bifurcation écologique,
voir s'il y a des choses qui doivent partir d'un côté ou de l'autre, mais ça, je veux le travailler comme il faut avant de le présenter, alors que là, j'étais plutôt pour présenter quelque chose de brut un peu, et c'était peut-être pas le moment en ce moment.
Hélas, notre rendez-vous se termine, Michel Veil. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de CFM Radio. Et vous reviendrez nous parler de cette bifurcation écologique.
Sans problème, je reviendrai chaque fois que vous le voudrez, il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup.
Je suis très clair là-dessus et je pense que maintenant, je commence même à avoir l'affaire en main un peu plus que je l'avais.
Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.